9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Un projet de passeport vaccinal européen sera présenté samedi prochain, le 17 mars, par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ce qui ne devrait pas manquer de faire polémique, comme on va le voir tout de suite avec Laurent Alexandre. Et puis il y a ce sondage qui donne Marine Le Pen à 48% des intentions de vote au cas où elle serait au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron l'année prochaine. 48%, c'est tout près de la victoire. Un spécialiste de l'opinion publique, Jérôme Sainte-Marie, va nous dire ce qu'il en pense. Et l'on terminera l'émission avec l'historienne Anne-Sara Moali, qu'elle consacre un livre, La marche des citoyennes, à une page peu connue de notre histoire, la lutte des femmes françaises pour obtenir le droit de vote. Alors que seulement 6% des Européens ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, dont 4,3 millions de Français, la Commission européenne planche sur un passeport vaccinal qui permettrait aux Européens de voyager librement à l'intérieur de l'Union européenne. On devrait en savoir plus samedi prochain, le 17 mars. Un Green Passport du même type est déjà délivré en Israël, qui permet à ceux qui sont vaccinés d'aller dans les salles de sport, les cinémas, les boîtes de nuit. Emmanuel Macron, qui serait plutôt hostile au passeport vaccinal, a évoqué en revanche un pass sanitaire, valable uniquement en France, pour pouvoir rouvrir un certain nombre d'endroits au public. Laurent Alexandre, vous êtes énarque et chirurgien, vous êtes donc familier de la médecine et de l'administration. Vous êtes également l'auteur de Jouissez jeunesse chez Jean-Claude Lattès. Vous y croyez-vous à l'imminence de ce laissez-passer miracle ?
Oh, je ne crois pas que ce soit politiquement possible. Si la France n'avait pas raté le programme de vaccination, on aurait pu envisager, comme en Israël, un passe vert. Mais du fait du Waterloo vaccinal européen, l'Europe vaccine beaucoup plus lentement que les autres zones développées. Il est très difficile d'imposer un passeport avec moins de liberté, moins de choix pour les gens qui n'ont pas été vaccinés. Le taux de vaccination en France, la semaine dernière, a été 2 fois plus lent qu'au Maroc, 4 fois plus lent qu'au Chili. Je ne parle même pas d'Israël ou de l'Angleterre qui vaccine à tour de bras. Donc, du fait de la stratégie de vaccination escargot que nous connaissons, il n'est pas possible de mettre en place un passeport vaccinal. Il y aurait vraiment un refus de la société et il y aurait une très mauvaise humeur sociale. Il y a incompatibilité entre mettre en place un passeport vaccinal et vacciner lentement comme on le fait aujourd'hui.
Mais justement, c'est peut-être pour ça qu'Emmanuel Macron évoque la possibilité d'un pass sanitaire, à la fois que pour obtenir ceux qui ont été vaccinés, mais aussi ceux qui disposeraient d'un test PCR négatif ou ceux qui auraient été immunisés parce qu'ils ont déjà eu la maladie.
Oui, ça part d'un bon sentiment de rajouter le test PCR dans le pass sanitaire, mais n'oubliez pas qu'un test PCR, ça dure 72 heures et que ça supposerait que les gens fassent refaire leur test 3 fois par semaine. Ça encombrerait complètement les centres de diagnostic et c'est assez peu crédible. Vous imaginez sur une année faire 150 tests PCR, ça paraît totalement déraisonnable. Donc en réalité, je pense qu'on va reculer et que l'on ne développera pas le passeport vaccinal ou le pass dans les semaines qui viennent.
Certains pensent que c'est une façon déguisée de rendre le vaccin obligatoire.
Non, on ne va pas rendre le vaccin obligatoire. Idéalement, il faudrait, parce que pour éradiquer le virus, il faudrait que tout le monde soit vacciné. Mais compte tenu de l'ampleur des mouvements sectaires anti-vaccins dans les principaux pays européens, il est hors de question de rendre le vaccin obligatoire. Car certains leaders, notamment d'extrême droite, je pense à Philippot, je pense également à Dupont-Aignan, ont distillé un poison complotiste dans l'opinion et ont convaincu les gens qu'il y avait un grand complot qui culminait avec la vaccination. Donc, la rendre obligatoire, cette vaccination, aujourd'hui, serait sans doute impossible et conduirait à des troubles sociaux du fait de l'importance des gens qui sont devenus complotistes en matière médicale et en matière de Covid-19.
Mais est-ce que ce serait injuste de limiter la liberté des gens au fait qu'ils soient vaccinés? Est-ce qu'on pourrait rendre ça légal? légal alors que c'est discriminatoire. Et c'est vrai que c'est en cas de passe sanitaire ou passeport vaccinal, peu importe le nom qu'on lui donne, certains ne pourront plus aller au cinéma ou prendre l'avion. Mais il y a des pays d'Afrique où l'on ne peut pas se rendre si l'on n'est pas vacciné contre la fièvre jaune, par exemple, et l'on ne peut pas inscrire ses enfants à la crèche ou à l'école s'ils ne sont pas vaccinés. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ces exemples pour rendre légal et juste un passeport vaccinal?
Oui, on pourrait imposer le passeport vaccinal d'un point de vue juridique. Ce serait compliqué et probablement que soit le Conseil d'État, soit le Conseil constitutionnel mettrait des réserves. On peut également rendre la vaccination obligatoire. Il y a des vaccinations obligatoires. La variole a été éradiquée à la surface de la Terre parce qu'elle était obligatoire dans la quasi-totalité des pays du monde. Donc on pourrait faire la même chose, mais nous sommes à un an de l'élection présidentielle et Emmanuel Macron ne va pas vouloir fâcher l'électorat complotiste et anti-vaccin. Donc il va hésiter avant de mettre en place des mesures coercitives. Il faudrait également, si on était raisonnable, imposer aux soignants la vaccination obligatoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Covid est en train de devenir une maladie nosocomiale à l'hôpital. Il y a beaucoup de gens qui attrapent le Covid en étant soignés à l'hôpital parce qu'il y a beaucoup de personnel jeune parmi les aides-soignants, les agents hospitaliers, les brancardiers dans les hôpitaux, qui font des formes asymptomatiques, donc qui sont contagieux sans avoir de symptômes, sans savoir qu'ils sont touchés. Et donc, on a de plus en plus de contaminations à l'intérieur de l'hôpital. Pour éviter ça, il serait logique d'obliger les soignants à se vacciner. On a certains pays aujourd'hui où les soignants n'ont plus le droit de venir à l'hôpital s'ils n'ont pas été vaccinés. C'est le cas dans certaines zones en Israël, où les soignants qui refusent la vaccination ne peuvent plus aller travailler dans leur hôpital. On voit que c'est médicalement, épidémiologiquement rationnel, que c'est politiquement impossible à quelques mois de l'élection présidentielle de 2021, au moment où Marine Le Pen oscille entre 47 et 48% des intentions de vote au deuxième tour face à Emmanuel Macron, qui n'est plus certain d'être élu.
On fait une pause, Laurent Alexandre, on se retrouve juste après.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Laurent Alexandre. Parmi ceux qui s'opposent à l'idée d'un passeport vaccinal ou d'un pass sanitaire, il y en a qui ne sont pas forcément complotistes, mais qui disent que les vaccins ne sont peut-être pas sûrs. D'ailleurs, on voit bien que l'AstraZeneca vient d'être retiré dans plusieurs pays européens. Certains parlent de principe de précaution. Qu'en pensez-vous ?
Ah, le principe de précaution est difficilement applicable en matière de vaccin. Si l'on réfléchit et qu'on évalue le vaccin pendant 20 ou 30 ans, on aura des certitudes quant à ses effets secondaires, mais pendant ce temps-là, on aura une hécatombe. Donc on est bien obligé de faire des paris technologiques, des paris médicaux quand on lance un nouveau vaccin. On va pas attendre des années et des années en maintenant les gens sous cloche, en maintenant des mesures liberticides, en bloquant les petits vieux dans leurs EHPAD et en fermant les restaurants jusqu'en 2028 pour avoir des certitudes sur le vaccin. Donc il y a un moment où on est obligé de prendre des décisions politiques, de faire des paris technologico-politiques. C'est ça la politique. Alors pour ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, les cas de thrombose que l'on observe chez les personnes âgées, il ne semble vraiment pas qu'elle soit liée au vaccin. On sait que chez les gens âgés, chez les gens vieux, il y a beaucoup de phlébite, d'embolie pulmonaire, de thrombose, et il est hautement probable, comme le pense l'Agence européenne du médicament, que les thromboses qui ont été observées dans les pays d'Europe du Nord sont normales et ne sont pas liées à la vaccination par le vaccin AstraZeneca.
En France, comme un peu partout en Europe, mais en France en particulier, on a essentiellement vacciné les patients des EHPAD. Au rythme où ça va, les jeunes seront vaccinés quand à Noël ou l'année prochaine. À quoi ça rime de parler, comme le fait déjà la Commission européenne, d'un passeport ou, comme le fait le président de la République, d'un pass sanitaire pour aller en boîte de nuit ou au restaurant ou dans les bars, que seuls pourraient obtenir les plus de 75 ans?
On voit bien le piège dans lequel on s'est mis. Le Waterloo vaccinal lié au fait que l'Union européenne a mal commandé les vaccins fait que l'Europe vaccine très lentement, que la population commence à en avoir assez et que dès qu'on relâche un petit peu le confinement et le couvre-feu, on a une explosion des cas. C'est ce qui est en train de se passer en Italie. L'Italie va à nouveau fermer les écoles, les bars et les restaurants parce qu'il y a une explosion des contaminations. Donc l'Europe est coincée, elle a mal négocié les contrats, donc elle n'a pas de vaccins, donc elle ne peut pas libérer la population par les vaccins et il est impossible politiquement de justifier un pass vaccinal alors même qu'il n'y a que quelques privilégiés, principalement des gens âgés, qui ont pu être vaccinés. De réouvrir les restaurants uniquement et les boîtes de nuit uniquement aux septuagénaires et aux nonagénaires est quelque chose qui entraînerait une révolte publique importante avec un sentiment d'injustice très fort. Donc en réalité, nous sommes coincés. Donc on va maintenir en Europe continentale, hein, je ne parle pas de l'Angleterre qui a réussi sa stratégie vaccinale, on va maintenir des confinements et des couvre-feux, on va avoir les urgences et puis les réanimations qui vont être embolisées pendant des mois et des mois. On ne va pas pouvoir ouvrir la cocotte minute. L'Union européenne est dans une situation très très difficile liée à l'échec complet des négociations de sa présidente Ursula von der Leyen qui s'est complètement trompée, qui s'est complètement plantée dans les achats de vaccins. Il faut savoir que l'Union européenne n'a regardé qu'une chose dans la négociation avec les industriels du médicament, du vaccin, c'est le prix des doses. D'ailleurs, Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, le 23 décembre dernier, se félicitait que l'Union européenne avait obtenu des doses de vaccins moitié moins chères que l'Angleterre et qu'Israël. À l'époque, on ne regardait qu'une chose, le prix des doses de vaccins. Et ce que l'Union européenne n'a pas réalisé, c'est qu'elle avait certes payé les doses de vaccins moins chères que les autres pays développés, mais qu'elle n'avait pas la priorité, qu'elle serait servie en dernier, et que donc on allait maintenir les couvre-feux et les confinements plusieurs mois plus longtemps en Europe qu'en Angleterre, aux États-Unis ou en Israël, qui sont des pays qui ont payé plus cher les doses, mais qui les ont eues tout de suite et qui vont libérer leur peuple. Donc aujourd'hui, la situation très particulière dans laquelle est l'Union européenne, c'est que c'est l'endroit où on vaccine le plus lentement. Il est invraisemblable que des pays du tiers-monde vaccinent plus vite que la France ou l'Allemagne ou l'Italie. Les répercussions politiques, le coût politique de cet échec vaccinal, de ce Waterloo vaccinal, vont durer longtemps et vont d'ailleurs menacer le projet européen. Car c'est bien la Commission européenne qui a voulu étendre son territoire en s'occupant de cette négociation sur les vaccins et qui était certaine d'y réussir et elle a complètement échoué. Donc une partie des pro-européens vont avoir des doutes sur la capacité de l'Union européenne à prendre des nouvelles missions dans les années qui viennent. C'est mon cas, je suis un pro-européen convaincu. D'un autre côté, je suis consterné de voir l'échec de l'Union européenne dans sa stratégie vaccinale. C'est le plus grave échec de l'Europe depuis le traité de Rome en 1957.
On en saura plus tout à l'heure à 10h. Michaël Darmon recevra Thierry Breton. Dernière question, Laurent Alexandre. On parle des pays riches qui sont les seuls, pratiquement les seuls à disposer de doses de vaccins pour l'instant. Or, tant que le monde entier n'est pas vacciné, on n'en aura pas fini avec le coronavirus qui nous reviendra sous forme de variants, non ?
Alors, bien sûr, nous risquons d'avoir des variants pour deux raisons. D'abord, on n'a pas l'autorisation de mise sur le marché du vaccin pour les moins de 16 ans, donc il va rester des réservoirs chez les moins de 16 ans. Il y a des gens qui refusent d'être vaccinés, donc qui vont constituer des réservoirs. Et puis, nous ne pouvons pas vacciner l'ensemble du tiers-monde. Notamment, il n'y aura pas d'acceptation du vaccin dans les pays africains où la population est extrêmement jeune et où le Covid-19 fait très peu de morts. Si vous prenez, par exemple, le Niger ou le Sénégal, la médiane d'âge est de 15 ans au Niger, 19 ans au Sénégal. Et dans ces pays, il n'y a quasiment personne qui a plus de 50 ans. La moyenne d'âge est vraiment très 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 bas. Comment voulez-vous que les gens acceptent de se faire vacciner alors qu'il n'y a aucun mort du Covid du fait de la jeunesse de la population ? Donc il va rester des réservoirs chez les complotistes, les anti-vaccins, chez les jeunes puisqu'on n'a pas l'autorisation de mise sur le marché, et puis dans les pays très jeunes, notamment d'Afrique, où les gens refuseront la vaccination parce que le Covid fait très très peu de dégâts chez eux.
Je rappelle votre dernier livre, Laurent Alexandre, « Jouissez jeunesse », c'est paru chez Jean-Claude Lattès. On se retrouve dans un instant. Vous avez dit que Marine Le Pen était aux portes du pouvoir. On l'entend beaucoup, en effet, mais c'est ce qu'on va voir avec quelqu'un qui étudie l'opinion publique, c'est Jérôme Sainte-Marie.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Bonjour Jérôme Sainte-Marie.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de la société d'études et de conseils Pauline Vox, ce qui fait de vous un spécialiste de l'opinion publique que vous passez votre temps à étudier. Vous enseignez à l'Université Paris-Dauphine, vous êtes l'auteur de Bloc contre Bloc, la dynamique du macronisme, c'est paru aux éditions du CERF en 2019. Il y a un sondage de l'Institut Elab pour BFM TV qui est sorti avant-hier qui annonce que 48% des Français estiment possible une victoire de Marine Le Pen en 2022. Alors, est-ce qu'on est dans le jeu de rôle habituel ? On s'en souvient, en 2017, c'était la même chose. On voulait absolument convaincre les gens que Marine Le Pen pouvait gagner. On savait très bien pourtant qu'elle n'avait aucune chance mathématiquement à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on recommence là ?
Je crois que c'est un peu différent. Effectivement, en 2017, on avait eu cette rumeur, en quelque sorte, largement entretenue par les médias des forces politiques, disant que Marine Le Pen pouvait gagner. Or, les sondages ont toujours montré que c'était un rapport de force de 60-40 en faveur d'Emmanuel Macron, dans cette hypothèse-là. Et le soir du premier tour, Marine Le Pen avait réalisé moins de 22% des suffrages exprimés. Et donc, sa victoire était devenue d'improbable, était devenue quasiment impossible. Le débat, évidemment, n'a rien arrangé. Là, c'est très différent. Ça fait 2 ans qu'on est sur des chiffres qui sont assez proches et qui vont, en plus, avec un écart qui se rétrécit. Il y a 2 ans, déjà, on avait un rapport de force tout à fait virtuel dans ces sondages d'intention de vote, en plus de second tour, à 43-57. Puis après, on est passé progressivement à 45-55. On a été quelques-uns à le signaler, mais visiblement, ça ne rentrait pas dans le débat public, ça ne rentrait pas dans les esprits. C'est vrai qu'on était très loin. Et là, il y a eu effectivement un événement assez rare, en fait, hein. Qu'un sondage comme cela, un sondage isolé, qui n'a même pas été publié d'ailleurs au départ, je crois qu'il n'a pas été du tout le sondage réalisé par Harris Interactive, qui annonçait un 48-52. 48 pour Marine Le Pen, 52 pour Emmanuel Macron. Et là, tout d'un coup, c'est comme une digue qui cède. Tout d'un coup, les gens ont réalisé effectivement que l'écart était devenu infime et que la victoire de Marine Le Pen devenait possible. On a une série d'indicateurs, effectivement, qui montrent que les Français commencent à se dire également que cette victoire est possible. Et vous savez, c'est un phénomène en quelque sorte en spirale. C'est une espèce de spirale d'opinion qui se crée et qui fait qu'aujourd'hui, le jeu est effectivement très ouvert.
Mais comment expliquez-vous la progression du Rassemblement National et de Marine Le Pen ? Alors, je rappelle que Marine Le Pen, après le mauvais débat du second tour de l'élection présidentielle en 2017, qu'il avait quand même pas mal déstabilisé, y compris dans son propre parti, beaucoup la voyaient comme une machine à perdre.
Oui, on avait beaucoup vu François Mitterrand comme une machine à perdre, une machine à faire gagner la droite dans les années 1978-1980. Il faut savoir que quelques mois avant sa victoire en 1980, François Mitterrand était présentant les médias comme vieux, usé et comme quelqu'un qui était finalement la meilleure assurance vie du pouvoir de la droite.
C'était la même chose pour Jacques Chirac d'ailleurs.
Voilà, hein. Et on opposait François Mitterrand à l'époque à Michel Rocard. Alors, c'est une très vieille histoire. Et là, pendant quelques années, on nous a dit effectivement que Marine Le Pen était la meilleure garantie du système, alors que d'autres personnages, par exemple sa nièce, Marion Maréchal, seraient au contraire des gens qui pourraient remporter les choses. Non, il y a des causes structurelles, si vous voulez, à cette situation politique. La première, c'est tout simplement l'effondrement du clivage gauche-droite. On l'a vu à la présidentielle de 2017, les deux candidats à finalistes ne se reconnaissaient pas dans ce clivage gauche-droite. On l'a vu aux européennes en 2019, les 3 listes arrivant en tête ne se reconnaissaient pas dans ce clivage gauche-droite. Et de fait, on a une forme de radicalisation de la société française par la dynamique du macronisme. On a effectivement toutes les élites qui se sont retrouvées dans ce vote macroniste, tout ce que j'appelle le bloc élitaire, et par un effet de symétrie, de radicalisation donc sociale essentiellement, vous avez eu les ouvriers, les employés, tous ceux qui se sentent plutôt les perdants de la mondialisation, les principaux soutiens du mouvement des Gilets jaunes, qui ont peu à peu perçu comme débouché politique à leurs aspirations et à leurs craintes, le vote Marine Le Pen. C'est grâce à cela, en fait, que sans faire grand-chose, sans dire grand-chose, durant les premiers mois, les premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen est devenue, aux yeux de l'opinion, la principale opposante. C'est le cas depuis novembre 2018 dans les sondages.
Au fond, la dynamique dont vous parlez, c'est que chacun, aussi bien Emmanuel Macron que Marine Le Pen, chacun se nourrit de l'autre.
Oui, c'est une symétrie qui d'ailleurs, à mes yeux, rappelle tout simplement un schéma de lutte des classes. C'est-à-dire que vous avez effectivement deux mondes qui s'affrontent, deux mondes qui se caractérisent par leur position à la société, par leur espérance ou leur crainte. C'est pour ça que parfois on dit que c'est l'opposition des optimistes et des pessimistes. C'est pas tout à fait faux. Sauf qu'il faut bien voir que les optimistes ont d'excellentes raisons de l'être dans le monde tel qu'il est, que les pessimistes ont quelques raisons d'être inquiets. Et puis par ailleurs, vous avez effectivement une idéologie, on peut dire, d'ouverture ou d'acceptation de l'Europe et de la mondialisation telles qu'elles sont. Et de l'autre côté, vous avez une forme de souverainisme intégral. Donc vous avez vraiment deux modèles, en quelque sorte, sociologiques, idéologiques et politiques, assez cohérents l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'entre les deux, les catégories moyennes, qui se retrouvent davantage dans la gauche traditionnelle ou la droite traditionnelle, sont bien embarrassées. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit aujourd'hui des taux d'abstention assez incroyables, notamment à gauche, dans l'hypothèse d'un second tour Le Pen-Macron.
On va en parler en effet dans un instant, Jérôme Sainte-Marie. On fait une pause, on y revient.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Jérôme Sainte-Marie, spécialiste de l'opinion publique et l'auteur de Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme, qui était paru en 2019. Vous faisiez allusion à l'abstention. Il y a une de Libération qui a choqué beaucoup de membres de La République En Marche, et pas seulement eux d'ailleurs, récemment, qui disait qu'il était pour plus question, pour un certain nombre d'électeurs de gauche, de faire barrage à l'extrême droite, que les électeurs de gauche ne voterait pas Macron au deuxième tour. Alors, pas tous, mais un certain nombre, qu'au fond, le Front républicain, c'était fini.
Eh bien, l'avenir est ouvert, bien entendu, mais les quelques mesures d'intention de vote, il y a eu plusieurs sondages récents, montrent qu'effectivement, il y a un changement d'attitude assez net à gauche. Il faut rappeler qu'en 2017, la gauche avait majoritairement voté pour Emmanuel Macron au second tour. C'était des chiffres de 79% pour les électeurs de Benoît Hamon, qui avait quand même choisi de faire barrage, comme on disait alors, et même chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 53%, d'après Harris Interactive, avaient finalement voté pour Emmanuel Macron, et quasiment aucun, 11%, avait voté pour Marine Le Pen. C'est très différent. C'est très différent. Aujourd'hui, on aurait seul un quart des électeurs de Mélenchon au premier tour qui voteraient pour Emmanuel Macron, et un quart qui voterait pour Marine Le Pen, le reste s'abstenant. Et chez des électeurs assez modérés, quand même à gauche, par exemple ceux qui auraient choisi virtuellement pour l'instant Madame Hidalgo au premier tour, 41% seulement voteraient pour Emmanuel Macron. Et pour ceux qui voteraient pour le candidat écologiste testé dans ces hypothèses, Yannick Jadot pour l'instant, 51% voteraient pour Emmanuel Macron. Donc on voit que majoritairement la gauche aujourd'hui s'abstiendrait et qu'une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon voterait pour Marine Le Pen. Moi, je vois quand même des explications à cela, si vous voulez. Vous avez d'une part eu une série de mouvements sociaux, non seulement les Gilets jaunes, mais aussi quand même il y a eu le mouvement de protestation contre la loi sur les retraites, sur la loi sur la modification du droit du travail. Tout cela s'est traduit par des affrontements dans la rue, mais en même temps par une attitude très intransigeante de la majorité gouvernementale. Les amendements des différentes oppositions ne seront jamais pris en compte, pour ainsi dire, depuis le début du quinquennat. L'Assemblée nationale est largement une chambre d'enregistrement, ce qui fait qu'à force de ne pas laisser la moindre respiration aux oppositions sociales et politiques, on se retrouve dans une forme, là aussi, de radicalisation des différentes oppositions qui, bien qu'elles détestent largement Marine Le Pen, n'ont pas envie de voler au secours d'Emmanuel Macron.
Il y a aussi la loi qui est en train de modifier la laïcité, il y a des lois sécuritaires autoritaire, il y a la loi contre les séparatismes. Toutes ces lois ont pu fâcher, et pas seulement pour des raisons économiques ou sociales, ont pu fâcher un certain nombre d'électeurs de gauche, plutôt libertaires, qui avaient voté facilement pour Emmanuel Macron en 2017. C'était le seul candidat, au fond, qui ne jouait pas, en tout cas ne jouait jamais sur les peurs.
Oui, effectivement, la victoire d'Emmanuel Macron a tenu aussi au fait qu'il était porteur d'espérance, il avait un discours résolument optimiste, et là où les autres candidats présentaient surtout l'action politique comme des problèmes à résoudre, lui c'était un candidat d'ouverture, c'était un candidat de réconciliation du libéralisme culturel, de ce qu'on appelle l'esprit libertaire en quelque sorte, et ce qui lui a valu le soutien d'anciens membres éminents de mai 68 d'ailleurs, dans sa composante libertaire, et par ailleurs du libéralisme économique, c'était la libération généralisée. C'était un peu l'esprit nouveau du capitalisme, hein, d'ailleurs, en fait, tout simplement. Mais enfin, ça donnait un souffle. Aujourd'hui, c'est vrai que ces aspirations libertaires de la gauche ont du mal à se retrouver dans les attitudes d'Emmanuel Macron, qui, par certains médias de gauche, est finalement caricaturé comme un nouveau Nicolas Sarkozy. Ça me paraît un peu curieux comme interprétation, mais en tout cas, ça s'est fortement répandu à gauche.
Emmanuel Macron, en 2017, a bénéficié d'un alignement des planètes assez incroyable. Au moment où il fonde le mouvement En Marche, en avril 2016, sur le papier, mathématiquement, il n'a aucune chance d'être élu. Il y a normalement Alain Juppé qui est prévu pour être le candidat de droite et qui va lui prendre des voix du centre-droit. Il y a François Hollande qui est prévu pour être le candidat du centre-gauche et qui va lui prendre des voix aussi de ce côté-là. Et puis il y a François Bayrou qui normalement va se présenter et lui prendre des voix au centre. Il n'a aucune chance. Et puis coup de chance, coup de bol pour Emmanuel Macron. À la place d'Alain Juppé, c'est François Fillon qui incarne une droite beaucoup plus libérale, plus dure. C'est Benoît Hamon à la place de François Hollande, qui est la frange gauche du Parti Socialiste. Et puis, François Bayrou va renoncer à se présenter en considérant qu'il n'a rien à gagner, ses voix étant déjà préemptées par Emmanuel Macron. Est-ce que la même chose peut se reproduire en 2020 ? On a l'impression, on parle là du report des voix sur Emmanuel Macron au deuxième tour, mais est-ce qu'il est certain de franchir le premier tour ?
Oh, je ne me lancerai pas dans ce genre de prévision. Mais Frédéric Taddeï, vous nous incitez, si j'ose dire, à une réflexion sur le hasard et la nécessité en politique. Pour moi, le hasard, en grande partie, c'est le fait que Emmanuel Macron soit devenu président de la République. Comme vous l'avez dit, il y avait toutes sortes de circonstances qui se sont développées, qui n'étaient pas forcément prévisibles et qui relèvent d'une forme, effectivement, de contingence. Inversement, la nécessité, c'était le macronisme. Le macronisme, c'est-à-dire, en ceci, ça aurait pu être un juppéisme, par exemple. C'est-à-dire cette forme de réunification des libéraux des deux rives, des européens des deux rives, était, si on se remet dans le contexte, était souhaitée par de très nombreuses personnalités et courants, disons, d'opinion, à gauche comme à droite. On avait vu ces rapprochements s'effectuer lors des deux référendums sur l'Europe, on avait vu cette frustration qu'avaient beaucoup de libéraux de droite, de centre-droit, de ne pas pouvoir soutenir Manuel Valls dans son affrontement face à la première gauche et face à la CGT, par exemple, au moment de la loi travail. Et finalement, c'était devenu dysfonctionnel, ce clivage gauche-droite, cette alternance systématique. Et il y avait, comme cela, des forces libérales de gauche que de droite qui avaient envie de travailler ensemble. Et leurs électeurs leur exiger en quelque sorte qu'ils rassemblent leurs forces pour réformer le pays. Et par ailleurs, il y avait aussi un autre élément qui est toujours présent, c'est le fait que les forces qu'on appelle populistes étaient en ascension continue. Macron n'est pas le créateur du macronisme en quelque sorte, hein, sauf que c'est lui qui a réussi à incarner ce mouvement. Ce mouvement existe toujours et c'est d'ailleurs pour cela que Emmanuel Macron, s'il est affaibli dans les sondages, notamment de second tour, pour les raisons qu'on a développées. Il n'est pas tellement affaibli au premier tour. C'est d'ailleurs pour ça que tous les sondages indiquent qu'il serait pour l'instant au second tour. Et en termes de popularité présidentielle, Emmanuel Macron rassemble entre 33 et 40% à peu près, parfois plus, de bonnes opinions. C'est pas si mal pour un président de la Ve République.
Merci Jérôme Sainte-Marie. Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme, c'est aux éditions du Cerf. J'imagine qu'un autre est en préparation et qu'il devrait sortir sous peu.
Je pense qu'en septembre-octobre, on peut s'y attendre.
On se retrouve dans 3 minutes avec Anne-Sara Moalic qui va nous raconter pourquoi les femmes en France ont mis si longtemps à obtenir le droit de vote.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Anne-Sara Moalic.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes historienne et vous publiez La Marche des citoyennes aux éditions du Chêne. C'est sur la lutte pour le droit de vote des femmes en France entre 1870 et 1944. On a l'impression qu'en Angleterre, les suffragettes étaient bien plus nombreuses et qu'elles se sont battues plus durement pour arracher aux hommes le droit de vote, n'hésitant pas à commettre des actes désespérés comme la vandalisation d'un chef-d'œuvre de Velázquez, la Vénus au miroir à la National Gallery par exemple, ou en faisant la grève de la faim pendant leur séjour répété en prison. Et ce serait pour cette raison que les femmes ont obtenu le droit de vote plus rapidement en Grande-Bretagne dès 1918, alors que les Françaises ne l'ont eu qu'en 1944.
Les Anglaises en fait ont été des suffragettes, c'est-à-dire qu'en effet, elles ont milité très durement et un peu sur le modèle des indépendantistes irlandais, mais très tardivement dans l'histoire de leur propre droit de vote, puisque c'est à partir du début du XXe siècle, alors qu'elles militaient déjà depuis 40 ans pour leur vote.
Et il faut savoir aussi ce que vous rappelez dans votre livre, c'est que les hommes ont eu le droit de vote au même moment en 1918 en Angleterre. Jusque-là, c'était un suffrage censitaire.
Exactement. Et les femmes n'ont pas eu le droit de vote à égalité en Angleterre en même temps que les hommes. C'était les femmes plus âgées qui avaient le droit de vote. Et en fait, tout ça est lié sans doute aux modifications justement de ces institutions politiques et le fait que soudain les hommes aient cette réforme du suffrage universel qui fait qu'on a réussi à intégrer les femmes. De la même manière qu'en France, en 1944, on a changé les institutions politiques. C'est la fin de la Troisième République, évidemment à la fin de l'État français de Vichy. Et au moment où on recrée ces institutions politiques, on intègre enfin les femmes, après un long, long combat.
Mais alors, pendant la Commune de Paris, il y a des formes de parité qui s'installent, mais le vote des femmes n'est pas abordé, dites-vous. Il y a Victor Hugo qui se prononce en sa faveur en 1872 dans un discours resté célèbre, mais c'est un avant-gardiste. Les groupes qui militent pour les droits des femmes sont rares et sont interdits par le gouvernement, d'ailleurs. La pionnière du suffragisme en France, c'est Hubertine Auclair. Elle a moins de 30 ans, en 1876, quand elle crée le premier groupe français de suffragettes qui s'appelle Le Droit des femmes. Vraiment, à ce moment-là, c'est très rare. Quoi.
C'est rare. Alors, c'est pas interdit. Les femmes ont le droit de se réunir en association. Enfin, elles ont le droit de militer, en tout cas. Mais en tout cas, c'est pas très bien vu par le grand public. Elles paraissent comme des utopistes. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Des folles. Je vous passe les autres qualificatifs qu'elles peuvent avoir. Et en effet, Hubertine Auclair est inspirée par le discours de Victor Hugo de 1872. C'est ça qui fait qu'elle monte à Paris et qu'elle prend en charge cette mission pour le vote des femmes, parce que les premières associations qui existaient étaient plutôt pour une ouverture du droit civil, donc plus d'égalité dans le droit civil. Les femmes étaient, par exemple, soumises à leur mari pour tous les actes de leur vie quotidienne.
Mais alors les pétitions quand même en Grande-Bretagne recueillent beaucoup plus de signatures, les Anglaises sont beaucoup plus nombreuses à se mobiliser, c'est d'ailleurs en Nouvelle-Zélande en 1886 que les femmes vont voter pour la première fois. Comment expliquez-vous cette dureté de la lutte de l'autre côté de la Manche ?
Déjà, les femmes avaient un rôle politique beaucoup plus ancien en Grande-Bretagne, elles étaient intégrées dans les circuits politiques, notamment pour aller faire voter les gens, ce qui n'était pas du tout le cas en France. Et puis, dès la fin des années 1860, les femmes propriétaires qui payent leurs impôts en Angleterre commencent à avoir un droit de vote municipal. Donc c'est ça aussi, ça permet de les intégrer dans cette histoire politique. Et donc, forcément, ça renforce leur côté militante. Mais en France, on était comme dans beaucoup, beaucoup d'autres pays du monde et d'Europe avec des femmes militantes qui défendaient leurs droits de manière très légaliste. Elles sont sur les clous, contrairement à quelques groupes d'Anglaises, mais pas toutes, qui en effet décident d'avoir des actions plus spectaculaires.
On ne comprend pas d'ailleurs, on les bénit d'avoir été si peu violentes face aux arguments qu'on leur opposait, parce que c'était quand même un apartheid ahurissant. L'homme le plus idiot, le plus analphabète avait le droit de voter, de décider de l'avenir de sa ville ou de son pays en France, mais une femme qui avait fait de brillantes études, non. Il y avait vraiment de quoi se révolter. Or, elles sont restées très pacifiques. Au moment où, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, il y avait des cortèges de 5 ou 10 000 manifestantes, au moment où, à Londres, il y avait le Black Friday, les suffragettes se ruant sur le Parlement et qui sont très durement frappées par la police, hein. En France, effectivement, elles restent légalistes.
Oui, et alors c'est vrai qu'elles elles ont aussi ces arguments, hein, sur cette inégalité inacceptable qui font qu'elles font en effet des études, qu'elles sont éduquées, qu'elles ont un rôle important dans la société, hein, qu'elles éduquent les enfants, mais aussi qu'elles peuvent lutter contre ce qu'on appelait les fléaux sociaux au début du XXe siècle, donc l'alcoolisme, le jeu, tout ce qui fait que on pouvait considérer que certains hommes étaient de mauvais électeurs. Et elles disent, mais nous sommes là, nous on fait tout bien, j'exagère un petit peu, je caricature, mais nous on fait tout bien et on n'a pas le droit de vote. Et donc c'est inacceptable. Mais en effet, elles restent complètement à continuer à demander à leurs députés de faire bouger les choses.
La Première Guerre mondiale a changé la place des femmes qui ont dû, pendant les combats, remplacer les hommes. À partir de 1919, on commence à débattre à la Chambre de leur vote. Maurice Barrès propose que les veuves de guerre puissent disposer du bulletin de vote de leur époux, mort pour la France par exemple, mais c'est non. En 1922, nouveau débat au Sénat, c'est toujours non. Les arguments qui sont utilisés par les hommes à l'époque semblent aujourd'hui complètement déments. Par exemple, il y a leurs mains, les mains des femmes sont faites pour qu'on les embrasse, pas pour porter un bulletin de vote. On se demande, les gens marchaient sur la tête à l'époque.
Pas tous, hein, pas tous, je vous rassure. Ceux qui disaient ça, ils étaient déjà assez extrémistes sur le sujet. La Chambre des députés, en 1919, vote pour le droit de vote des femmes. C'est le Sénat qui a bloqué à partir donc de 1922 avec donc ce sénateur qui s'appelle Alexandre Bérard, puisqu'il faut lui rendre toute sa citation. Et en effet, ils ont été en fait, ils ont été prendre vraiment les arguments les plus misogynes qui soient, certains sénateurs qui ont bloqué. Mais le reste de la société, il faut quand même voir que l'ensemble de la société avait largement évolué sur ces questions-là, et que tout au long des années 20, ça frémit, puis ça bouillonne dans les années 30. La Chambre des députés, donc l'actuelle Assemblée nationale, vote plusieurs fois sur les années 20 et les années 30 en faveur du vote des femmes, et parfois à l'unanimité de la Chambre.
Mais à chaque fois, c'est bloqué par le Sénat. La première expérience de suffrage universel réel, c'est en 1936, à Louviers. C'est Pierre Mendès-France qui vient d'être élu maire, qui l'organise. Léon Blum fait entrer 4 femmes au gouvernement du Front populaire. Ça dure 6 mois et puis c'est fini. Et donc, il faudra attendre 1944, mais c'est même pas dans le programme du Conseil national de la Résistance. Hein. On a l'impression que s'il n'y avait pas eu le général de Gaulle, elle n'aurait pas eu le droit de vote.
Si, elles auraient eu le droit de vote, puisqu'on avait une assemblée provisoire à Alger qui avait voté en faveur de ce droit de vote, justement sur l'argument que la Troisième République avait été morte, en fait, de son immobilisme et de sa volonté de ne pas changer, et donc notamment à travers ce sujet du vote des femmes. Donc, avec ou sans le général de Gaulle, je ne veux rien lui retirer, mais c'est pas lui qui a fait sortir le droit de vote des femmes de son képi. Hein. D'autres y avaient pensé, il y avait eu des débats encore très très vifs, parce que tout le monde n'était pas pour, mais il y avait quand même cette pression sociale qui faisait qu'en 1944, à partir du moment où on changeait les institutions politiques, ce que le Sénat en fait avait refusé pendant toutes ces années, à partir du moment où il y avait ce changement, on ne pouvait plus ne pas inclure les femmes. C'était devenu inimaginable et ça n'aurait jamais été compris.
Merci Anne-Sara Moalic. La marche des citoyennes, c'est donc aux éditions du CERF. Et ça raconte en détail une partie de notre histoire, au fond, qu'on connaît assez mal.
Europe 1.
C'est arrivé demain, se termine. On se retrouve samedi prochain. Vous avez maintenant retrouvé le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Mickaël, vous recevez Thierry Breton.
Oui, Thierry Breton, donc le commissaire européen. Alors, puisqu'on parle d'un Waterloo vaccinal, eh bien, le monsieur vaccin de l'Europe va s'appliquer à démontrer le contraire.
Bonne émission.